Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une
femme. I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Des femmes artistes, activistes, politiques.
J'aime pas les garçons, ça fait mal, ça pique.
People are suffering. People are dying. How dare you?
C'est même pas la faute des juges, c'est le système.
J'irai où je veux, je tracerai ma route.
La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi.
Bienvenue dans la Boom. Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Michel Perrault. Ceci est la deuxième partie de notre échange.
S'intéresser aux femmes, c'était comme déchirer un voile, c'était comme écarter un rideau, c'était comme dissiper la nuit, c'était comme accueillir l'aurore, si on peut dire.
Je ne vous l'ai pas dit la dernière fois pour ne pas trop me la péter, mais après notre entretien d'une heure et demie, Michel Perrault m'a dit qu'elle avait dit à mon micro des choses qu'elle n'avait jamais racontées. Je crois que je sais à quel passage elle fait allusion, parce qu'à un moment, j'ai senti un sanglot monter en moi et j'ai vu une larme rouler calmement sur sa joue droite. Après, en sortant de l'interview, Michel n'était que joie. Elle a traîné dans le studio de Nova Spot, posé des questions à Sophie, notre stagiaire qui était étudiante en histoire, s'est enquise du modèle économique du podcast, du rythme de diffusion de nos prochaines invitées. Elle a fait preuve d'une curiosité comme j'en ai rarement croisé et qui est probablement la raison pour laquelle Michel Perrault est la plus grande des historiennes. Si vous écoutez souvent La Poudre, vous savez comme j'aime l'histoire. Si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous invite, juste après l'écoute de celui-ci, à fouiller dans nos archives pour retrouver mon échange avec Bibia Pavard ou l'épisode Marguerite Durand avec Christine Barr. Mais cet échange-là, il est bien plus que de l'histoire. Il est l'histoire de Michel Perrault. Souvenez-vous, on en était à ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Avec Michel Perrault, on a parlé d'Algérie, de fascisme, et d'amour. En tout cas, cette guerre, quand vous en parlez, c'est encore tellement vivant. Quand vous refaites ce récit qui date d'il y a quand même 70 ans, c'est très émouvant de vous entendre le décrire avec autant de précision. Et ce qui en découle, c'est quand même une période... Pétain, il laisse des traces extrêmement profondes sur la société française. Et avant 68, il y a quand même deux décennies où la religion est très présente en France, les femmes sont très tenues, on les éduque à la couture, à la cuisine, etc. Et vous-même, vous avez reçu une éducation très religieuse. Vous avez aussi embrassé la foi, je crois que c'était un peu pour faire plaisir à votre grand-mère. Je sais que j'ai lu que à l'époque il y avait une forme de culpabilité qui reposait sur les épaules des femmes, comme si c'était pour épargner les femmes en fin de compte qu'on avait laissé les Allemands s'installer en France et que les femmes devaient payer pendant plusieurs décennies le coût de cette guerre.
Oui, bien sûr. La culpabilité, c'était le discours que on nous tenait, par exemple, dans ce cours religieux où j'étais élève.
C'est fou, ça, quand même.
Oui, nos parents étaient coupables. Il y avait l'idée que nos parents étaient coupables. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient coupables? Surtout parce qu'ils n'avaient pas voulu faire d'enfants. Moi, j'étais fille unique, mais je n'étais pas la seule. Dans ma classe, il y avait beaucoup de filles uniques. Donc, l'idée, naturellement, ce n'était pas expliqué, tout ça. Mais c'était sous-jacent. C'était l'idée que, au fond, nos parents s'étaient aimés. On le disait pas parce qu'on n'osait pas parler de sexualité, bien entendu. Mais que nos parents n'avaient pas voulu avoir d'enfants. Et que, par conséquent, nous, les femmes de demain, nous devions avoir une autre mentalité, nous devions nous marier, avoir des enfants, être des bonnes épouses, des bonnes mères. Oh oui, c'était un discours extraordinairement conformiste, conventionnel, véritablement. Mais je m'en suis libérée. Je m'en suis libérée très vite. Je m'en suis libérée très vite pour plusieurs raisons. D'abord parce que mes parents n'étaient pas comme ça, du tout. En vérité, il y avait une profonde contradiction entre l'éducation que j'avais dans ce cours religieux et l'éducation que j'avais chez moi. Mes parents étaient des gens très libres, très affranchis. Et au fond, le hiatus, la brèche qu'il y avait entre ces deux types d'éducation a été pour moi une forme de libération, hein, une possibilité de me libérer. Et comme par ailleurs, j'ai tout de suite fait des études, mes parents m'y encourageant, il n'y avait aucun problème. J'ai été à la Sorbonne, j'ai été étudiante, et j'étais attirée, j'étais toujours chrétienne à cette époque-là, mais chrétienne progressiste, de plus en plus. Hein. Et comme j'avais une conscience sociale assez vive, j'étais attirée par le Parti communiste. Hein. Parmi les étudiants, il y avait des années 50, puisque c'est les années 50 maintenant, dont on parle. Il y avait deux groupes. Il y avait les étudiants chrétiens. Moi, j'étais parmi les chrétiens. Et puis, il y avait les étudiants communistes. Et ces deux catégories d'étudiants discutaient beaucoup. C'était une Sorbonne active où on discutait. Et comme il y avait, à cette époque-là, la guerre d'Indochine, on se posait beaucoup la question de la colonisation, ouais, des guerres coloniales. Et les étudiants communistes organisaient des réunions. J'allais dans ces réunions et je les entendais qui critiquaient les étudiants communistes, les étudiants catholiques, en disant l'Église catholique. Bon, et du coup, les étudiants catholiques se sentaient coupables, et moi aussi. Et je me sentais de plus en plus attiré par ces étudiants communistes qui, en effet, remettait en cause la colonisation. Et moi, je me disais, mais c'est horrible, la colonisation. Comment est-ce qu'on peut être solidaire de ça? Et voilà, c'est comme ça que se faisaient les choses. Et c'était des années où on discutait. Enfin, on discutait. C'était donc des années de liberté. J'ai passé l'agrégation en 51. Donc, je suis nommé au lycée de jeunes filles de Caen, parce que à cette époque-là, c'était un monde non mixte, absolument non mixte. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. La Sorbonne avait été une période de mixité heureuse. Et puis à Caen, on retrouve un monde extrêmement divisé. Je me sens bien, j'aime bien mon métier, c'est sympathique, etc., etc. Ceci dit, je trouve tout de même que c'est bien séparé tout ça. Mais bon, j'ai des histoires d'amour, tout ça, et puis je rencontre l'homme de ma vie, au fond, et que j'épouse, tout ça. Et les années 53, 50 et à suite ont été des années de... Oui, d'affranchissement, de liberté. Hein. Ma génération, peut-être pas toute ma génération, mais la génération politique dans laquelle j'étais, c'est-à-dire une génération au minimum chrétien progressiste et puis de plus en plus attirée par le communisme, c'est une génération qui se libère.
Ouais. Hein,
et qui critique un petit peu tous les dogmes qu'il y avait, etc. Donc, dans mon couple, il y avait beaucoup de liberté. Je n'étais pas la seule. À Caen, parce que j'étais nommée à Caen, on rencontrait d'autres couples, hein, par exemple, les Ozouf, Mona Ozouf, qui est bien connue, une qui est peut-être moins connue, mais qui était peut-être encore plus formidable, Nicole Ledouarin,
mais oui,
grande biologiste, qui a fait des découvertes tout à fait importantes pour la découverte de l'ADN. Et elle est une des premières à m'avoir parlé de ça. L'ADN, où je ne connaissais rien, alors vraiment rien. Et elle m'a appris ce que c'était que l'ADN, pourquoi c'était important dans le domaine, qu'est-ce que c'était que les gènes, la transmission, enfin j'ai appris une foule de choses.
D'ailleurs, vous dites de ces deux femmes, de Mona Ozouf et, oui, de Nicole Ledouarin, que ce sont vos amies d'une vie. Vous parlez d'elles en vraiment comme des immenses amies. Et tout récemment... J'ai vu Jane Fonda, peut-être que vous avez vu cette vidéo, où elle dit « L'amitié entre femmes, c'est une amitié différente de l'amitié masculine. » Parce que quand on est amis entre femmes, on se regarde face à face, alors que les hommes s'assoient côte à côte pour regarder autre chose. Est-ce que ça vous parle ?
Ah oui, 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 absolument. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais je dirais que dans ces années-là, les années 55, peut-être bien que c'était encore du côte à côte. Voilà, hein, pour reprendre ce que vous venez de dire à l'instant. Je pense qu'on était ensemble, mais on était très engagés contre la guerre d'Algérie. Parce que ouais. L'Indochine, c'était fini. Mais par contre, notre génération a été vraiment affrontée à la guerre d'Algérie. Et il y avait beaucoup à faire. Donc, on était ensemble dans les manifs, etc., etc. Et c'est peut-être un petit peu après que la guerre d'Algérie finit avec les accords d'Évian en 62. Alors, à ce moment-là, on a déménagé, on était à Paris. Je ne vais pas vous raconter tout ça. C'est peut-être à ce moment-là qu'on a été face à face. Hein ? Ça, c'est peut-être à ce moment-là. Par ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a eu des enfants. Hein ? Nicole Le Doirin a été la première. Elle a eu deux petites filles. Et moi, je suis venue après. J'ai eu une fille aussi, une petite fille. Mona Ozouf, malheureusement, elle l'a beaucoup regretté, n'a pas pu avoir d'enfant. Elle en a adopté deux, un garçon et une fille. Donc, de toute manière, nous nous sommes retrouvés dans ces années-là comme jeunes mères.
Hein. Et c'est là que vous avez commencé à partager votre intimité.
Voilà. Alors, à ce moment-là, on a un petit peu changé de statut et on a probablement... le face-à-face est devenu, en effet, très important.
Je suis contente que vous ayez parlé d'Algérie parce que j'avais envie, effectivement, vous avez fait partie, comme beaucoup d'intellectuels français de gauche, du comité Audin sur la torture en Algérie. J'invite les auditeuristes à faire des recherches dessus parce que c'est important ce qui s'est dit et écrit au sein de ce comité. Et puis, beaucoup plus récemment, vous avez co-écrit un magnifique livre avec une avocate algérienne. Alors, je recherche le titre, je n'arrive pas à le retrouver, c'est très beau.
La tristesse est un mur entre deux jardins.
Voilà.
Algérie, féministe, féminisme, France. Oui. Voilà, c'est ça. Le titre, c'est ça.
Et dans ce livre, dont j'ai lu quelques extraits, on voit, il est sorti en 2021, vous l'avez écrit pendant le confinement, c'est vraiment un échange épistolaire. Et on voit en fait qu'il y a tellement de choses qui datent des années 60, de la guerre d'Algérie, qui ne sont toujours pas réglées entre l'Algérie et la France. Et on voit aussi à quel point les questions féministes s'entremêlent aux questions décoloniales. On le voit, par exemple, c'est un sujet qui est traité dans le livre sur la question du voile. Toutes les lois qui sont faites, où on se focalise beaucoup sur les femmes musulmanes, qui sont effectivement des lois qu'on hérite des années de colonisation. Et je me demandais, en fait, si vous aviez l'impression que la prise de conscience, disons post-coloniale ou décoloniale, elle se faisait petit à petit dans l'esprit de la France ou de l'Occident, un peu comme se fait petit à petit la prise de conscience du genre et des inégalités entre les genres.
Oui, je crois, vous avez tout à fait raison. La prise de conscience se fait progressivement et c'est en ce sens que le colonial, comme on dit maintenant, hein, c'est quelque chose d'important parce qu'il ne suffit pas de décoloniser. Hein. Ouais. Décoloniser, ça veut dire le pays est indépendant et puis ça y est, c'est fini, c'est réglé. On l'a cru. Dans ma génération, on a cru qu'il suffisait. L'Algérie est indépendante, ben voilà, elle prend son sort en main et puis c'est fini. Mais en réalité, quand on colonise, on domine pendant des années. Et qu'est-ce que ça veut dire, cela, hein, cette colonisation de longue durée qui va laisser des traces dans les générations colonisées. Et je pense que c'est maintenant, depuis quelques années, qu'on en a pris davantage conscience avec l'idée du décolonial qui n'est pas seulement la décolonisation. colonisation. C'est quelque chose de, en effet, beaucoup plus profond et beaucoup plus structurel.
Et on voit à quel point ça résiste quand on voit Omar Sy qui ose sous-entendre que la France a encore des comptes à rendre aux tirailleurs sénégalais et peut-être des pardons à formuler. Les levées de boucliers que ça suscite, parce que le problème, c'est le film, c'est pas vraiment ce qu'il a pu dire sur l'Ukraine. Donc on voit que c'est encore très mal digéré, en fait, que c'est une histoire qui reste au travers de la gorge de la France encore 50 ans, 60 ans après.
Ah oui, je le pense. Je le pense. Je pense que ça reste, comme vous dites, en travers de la gorge et que le film que vous venez de citer, et c'est symptomatique que ce soit maintenant.
Hein. Oui.
C'est tout à fait étonnant. Et on avait l'impression que tout ça, c'était fini, qu'il y avait eu plusieurs générations, qu'on n'en parlait plus. Eh ben non, on en parle maintenant.
Ouais. En fait, j'avais envie de parler de cette histoire de la façon dont les idées, finalement, émergent et mettent du temps à infuser pour le ramener à l'histoire du féminisme. On l'a dit au début de l'entretien, vous avez créé ce cours en 73, mais le livre qui est vraiment votre grand livre, votre grande œuvre, l'histoire des femmes en Occident, que vous avez co-dirigé avec Georges Duby, et il y a beaucoup de contributrices, beaucoup d'historiennes qui y ont contribué, il est sorti en fait en 90. Donc il connaît vraiment son succès, il est traduit dans plein de langues, 20 ans après que ce cours ait été lancé. Et j'ai l'impression même qu'il résonne profondément, presque maintenant. Cette idée que l'histoire des femmes est à écrire, on l'entend en fait dans MeToo. Et parfois j'ai l'impression que, en fait, il faut de la patience, énormément de patience, pour que les idées de l'université finissent par atteindre l'édition, puis les médias. Vous avez aussi fait beaucoup d'émissions de radio dans les années 90-2000, pour finalement finir par atteindre le grand public et à s'ancrer profondément dans les esprits.
Oui, je pense qu'il faut du temps. Et je vous dirais que ce qui se passe en ce moment, depuis peut-être 5 ans, mettons MeToo, qui va bientôt aller vers sa 6e année, bientôt déjà. Je pense que en ce moment, on vit un temps fort du féminisme. Et je vous dirais que ça me surprend. Vous voyez, je ne m'y attendais pas. Vous l'avez dit depuis le début, vous en êtes vous-même un témoin par le fait que vous me demandiez aujourd'hui de parler avec vous. Hein. Vous en êtes un témoin. Il y a une demande des jeunes féministes que vous êtes aujourd'hui sur les rapports entre hommes-femmes. Et c'est presque quelque chose de nouveau par rapport aux années qu'on a vécues depuis un demi-siècle. Hein. Il y a eu des années extrêmement actives, 70-80, et puis après, il y a eu quand même un petit assoupissement. Nous, on a continué à travailler.
Vous n'avez jamais arrêté, vous. Hein.
On a continué, bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant, dans ces années que nous vivons, il y a une espèce de renaissance du féminisme qui aboutit à une demande de témoignage. Tel que nous le vivons, vous et moi, en ce moment. Donc oui, c'est à la limite, c'est réconfortant. C'est réconfortant, d'un côté, c'est réconfortant. D'un autre côté, on peut aussi se dire, si on le fait maintenant, c'est peut-être que tout n'a pas été réglé et qu'il y a encore beaucoup de choses à régler pour les femmes maintenant, non seulement en France, mais évidemment dans le monde.
Parfois, on compare l'époque qu'on vit actuellement justement aux années 30, parce que parallèlement à ces mouvements sociaux, qu'on pourrait comparer d'ailleurs au Front populaire, et on voit aussi malheureusement l'extrême droite prendre le pouvoir ou menacer de prendre le pouvoir. Est-ce que cette comparaison, elle vous semble légitime ?
Oui, elle me semble légitime. Et quand on voit La force, j'allais dire, masculine au mauvais sens du terme, bien entendu, de pouvoir comme celui de Poutine. Hein. Bah, évidemment, on pense à Hitler. On ne va pas dire que Poutine est nazi. Théoriquement, Poutine, quand il s'attaque à l'Ukraine, ce qui est vraiment affreux, hein, dit qu'il lutte contre le nazisme. Donc, il ne se revendique pas du nazisme, évidemment. Hein. Mais on est quand même frappé de la force de ce pouvoir militaire viril hein, qui s'affirme sur la Russie d'aujourd'hui et qui combat l'Ukraine. Et puis on voit la même chose, ce pouvoir vraiment tout à fait ultra viril en Hongrie, mettons. Hein. Et on voit aussi que dans des pays comme la Pologne, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais l'avortement n'est pas reconnu. C'est encore une difficulté extrêmement grande. Donc, on peut, en effet, faire des comparaisons, mais il faut toujours se dire que en histoire, rien ne se reproduit absolument à l'identique. Et que la situation actuelle demande à être analysée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire différente. La Russie d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est l'Allemagne d'Hitler. On ne peut pas dire ça. C'est vraiment une combinaison subtile d'une Russie peut-être à la fois héritière de la Russie des Tsars, mais héritière également de l'Union soviétique qui a été quand même à un moment tout à fait importante. Et ça forme une curieuse combinaison qu'il faut décrypter en tant que telle dans l'histoire de l'Europe centrale, des rapports entre la Russie proprement dite et l'Ukraine. Et c'est une histoire compliquée.
On est parti dans le grand. Je voudrais qu'on revienne un peu à l'intime et à la chambre. Vous avez écrit l'histoire des chambres, comme dans La chambre à coucher. C'est l'un de vos ouvrages d'ailleurs les plus connus, qui a connu le plus de succès. Il a reçu le prix Femina. Et je voudrais lire un passage que je trouve magnifique. « Bien des chemins mènent à la chambre. Le sommeil, l'amour, la méditation, Dieu, le sexe, la lecture, la réclusion, voulue ou subie. De l'accouchement à l'agonie, elle est le théâtre de l'existence. Là où le corps dévêtu, nu, là, désirant, s'abandonne. On y passe près de la moitié de sa vie, la plus charnelle, celle de l'insomnie, des pensées vagabondes, du rêve, fenêtre sur l'inconscient, sinon sur l'au-delà. » C'est magnifique de se dire que vous avez écrit une histoire d'un lieu qui est celui de l'intime. Et est-ce qu'il n'y a pas un point commun, finalement, dans vos travaux, que vous travaillez sur les femmes, ou sur les prisons, ou sur la chambre, pour raconter ce qu'on cache, ce qui est invisible ?
Oui, sans doute. Peut-être même que je ne m'en suis pas rendu compte moi-même. Mais il y avait en effet, pour moi, une attirance sur l'ombre, une attirance de l'ombre. Hein. Ce dont on ne parle pas, c'est ça qui m'intéressait. Par exemple, quand j'ai fait l'histoire des grèves, ce n'était pas l'histoire du syndicalisme qui m'intéressait, encore qu'il soit tout à fait intéressant, mais c'est très développé. Ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce qu'un ouvrier dans une usine perdue dans telle ou telle région fait grève ? Qu'est-ce que veut dire la grève pour lui ? Qu'est-ce que représente le temps de la grève, qui est un temps de respiration au XIXe siècle, voire même un temps de fête ? Parce que quand les ouvriers sortent de l'usine, en général, ils sont très contents. Hein. Ils sont soulagés, ils font des cortèges, ils font la fête, etc. Donc, quand j'ai fait l'histoire du monde ouvrier, il y avait ça. Et puis ensuite, quand je me suis intéressé aux prisons, c'était parce que le monde des prisons, c'est aussi un monde tout à fait caché, dont on ne parle pas, la cellule de prison, le délinquant, le criminel, c'est des gens rejetés par le centre du pouvoir, rejette tout à fait les gens de la périphérie. Les femmes, n'en parlons pas. Les femmes étaient ce sexe entier, n'avaient pas d'histoire.
Pas d'histoire.
On n'en écrivait pas l'histoire. Il était dominé, absent de l'histoire. Par conséquent, s'intéresser aux femmes, c'était comme déchirer un voile, c'était comme écarter un rideau, c'était comme dissiper la nuit, c'était comme accueillir l'aurore, si on peut dire. Je pense qu'il y a un point commun entre ces mondes tous ces mondes obscurs, l'obscurité elle-même.
Et il y a une question que j'ai remarquée qui revient en fait dans beaucoup de vos travaux sur la chambre, mais aussi sur la famille, par exemple. C'est une interrogation sur l'amour, sur l'histoire de l'amour. Vous écrivez même « Les histoires d'amour ont-elles une histoire ?» Et finalement, ça revient à se poser la question de l'amour comme une construction culturelle, comme une construction sociale. J'ai l'impression que MeToo est un petit peu en train d'amener ce genre d'interrogation. Finalement, est-ce que même le couple, cette histoire de se mettre avec quelqu'un, n'est pas écrit, en fait, par l'histoire ?
Oui, l'amour, l'amour est central. Hein ? Qu'est-ce que nous vivons dans nos vies s'il n'y a pas une histoire d'amour ? Simplement, ces histoires d'amour peuvent être très diverses. Notre société, nos sociétés ont été construites autour de l'hétérosexualité. Bon, l'hétérosexualité n'est qu'une forme d'amour très importante. Et je crois justement que dans l'hétérosexualité, il faut voir les rapports des hommes et des femmes. Et ce sujet de l'histoire des rapports hommes-femmes est central. Pourquoi et comment est-ce qu'on a pu oublier que cette histoire entre les hommes et les femmes tissait l'histoire en dehors des guerres, du pouvoir, des conflits, etc. etc. Donc, dire d'abord que les histoires entre hommes et femmes, les rapports entre hommes et femmes ont une histoire. Et puis, on peut aussi s'aimer en dehors de l'hétérosexualité. L'homosexualité est une forme qui a été longtemps refoulée, refusée, non seulement refoulée, mais condamnée, refusée. Et il y a eu des gens malheureux. Il y a des gens qui se sentaient un amour, un homme aime un autre homme, une femme aime une autre femme. Et on leur dit, c'est mal, hein, c'est pas possible. C'est, voilà. Et découvrir que c'est possible, qu'il y a une hétérosexualité reconnue, mais reconnue dans la domination. Donc il va falloir en faire quelque chose.
Et oui.
Et en faire quelque chose d'autre. Hein. Et puis, une homosexualité devenue légitime, dans nos pays maintenant, heureusement, c'est reconnu. Ben, voilà, tout ça, ce sont des histoires. Hein. C'est des histoires collectives et c'est des histoires individuelles de chacun, de chacune. Et faire la découverte de ça à travers le temps, se demander qu'est-ce que c'était les rapports hommes-femmes dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, mettons. Hein, qu'est-ce que ça voulait dire ? Qu'est-ce que ça a été que le 19e siècle, tellement qui nous structure encore, qu'est-ce que ça a été que cette époque très rigide pour les rapports hommes-femmes, mais où finalement ils ont commencé à se revendiquer comme libres. Tout ça, ce sont des histoires absolument passionnantes. Mmh. Et en faire l'histoire de la vie privée, faire l'histoire des rapports entre les sexes, faire l'histoire des femmes, faire l'histoire des chambres, où s'exprime justement aussi bien l'aspiration à la solitude et au rapport à soi dans une chambre qu'on revendique pour soi, une chambre à soi, comme disait Virginia Woolf, et puis une histoire de rencontre entre les sexes ou entre les mêmes sexes. Oui, tout ça, ce sont des histoires.
Vous avez accès à votre chambre à vous ?
Ah oui, tout à fait.
Et vous l'avez eue toute votre vie ? Vous avez partagé votre vie avec le même homme, qui était un historien d'ailleurs aussi ? Vous avez,
ah oui.
Vous avez fait votre carrière avec votre nom de femme mariée. Quelle place a occupé l'amour dans votre vie à vous ?
Ah bah, une très grande place, mais ça alors j'ai pas tellement envie d'en parler, ce sont mes secrets à moi. Hein. J'ai eu là beaucoup de chance, disons rapidement. J'ai rencontré un homme qui était vraiment quelqu'un bien, voilà, à tout point de vue, que j'ai infiniment aimé, qui est décédé il y a à peu près un an maintenant, un peu plus maintenant. J'ai eu vraiment beaucoup de chance dans la vie. Voilà. Bon, ça n'a peut-être pas empêché des amours secondaires, mais ça a été l'amour fondamental de ma vie, très très important.
Il y a un autre secret que j'avais envie de vous demander, je suis vraiment désolée de vous demander ça, mais quel est le secret de votre forme? Vous êtes tellement radieuse, vous êtes tellement belle, avec votre manucure parfaite, cette élocution parfaite, cette forme qui fait que vous êtes encore en train de faire des plateaux de radio et des plateaux de télé à 94 ans. Quel est le secret de votre santé, en fait?
Peut-être ce sont les gènes dont me parlait mon ami Nicole Ledoirin. Peut-être que j'ai un bon bagage génétique en ayant eu... pas beaucoup. J'ai eu très très peu de problèmes de santé. Ben, j'ai de la chance.
Ouais, voilà. Encore une fois.
J'ai de la chance. Bon, ça c'est une première réponse. La deuxième réponse, j'ai eu de la chance socialement aussi. Hein. Quand on a un appartement agréable, qu'on habite dans un lieu agréable, ben c'est un privilège. Autrement dit, j'ai eu une série de privilèges. Voilà, et alors peut-être qu'après, avec ces privilèges, j'ai eu des objectifs. Mais avoir des objectifs dans la vie, c'est encore une chance.
Ouais.
Hein, c'est encore une chance. J'ai fait des choses qui m'ont plu. J'ai aimé faire l'histoire. J'ai aimé participer au mouvement de libération des femmes. Oui. La réponse n'est pas simple. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, une série de chances, hein, à tout point de vue. Et puis, ben voilà, ben j'ai tricoté des choses avec ça. En femme, j'ai tricoté.
J'ai échangé récemment avec Rosemary Lagrave,
oui.
Qui me disait que la retraite en tant qu'intellectuelle, c'était quelque chose de très particulier. Et que quelque part, c'était aussi une chance de ne pas être complètement remerciée. Parce qu'on peut continuer à exercer son travail, à publier des livres, à échanger avec des étudiants et des étudiantes. Et que c'était probablement une chance pour vieillir bien que de continuer d'avoir une utilité sociale en tant qu'intellectuel.
Ben, je suis totalement de l'avis de Rosemary Lagrave, que je connais bien, et que je rejoins absolument sur ce point, bien sûr. C'est là où la notion de travail demande à être analysée. Hein. Y a du travail, il y a des travaux. Il y a des travaux pénibles qu'il faut... Que les gens demandent à s'arrêter à 60 ans et à bénéficier de leur retraite, franchement, quand ils s'embêtent au travail, quand ils font des travaux répétitifs, ennuyeux, souvent mal payés, il faut les soutenir, absolument. Quand on fait un travail qu'on a choisi et qui vous plaît, on est à la retraite. Finalement, au contraire, généralement, la retraite vous délivre des choses ennuyeuses. Moi, j'étais à l'université, j'avais depuis déjà longtemps beaucoup de responsabilités, de choses à faire qui commençaient à être un petit peu ennuyeuses, les réunions, la paperasse, l'administration, etc., etc. Quand tout ça, on m'a dit, vous vous arrêtez, j'ai dit très bien. J'avais des projets de livres qui étaient un petit peu à l'arrêt. J'étais très en forme. J'ai pu les faire à ce moment-là, en toute liberté. J'avais encore beaucoup de thèses. Donc, dans les années qui ont suivi,
vous en avez accompagné beaucoup, beaucoup.
J'ai continué à m'en occuper. Au contraire, m'en occuper davantage. Mais non, pour moi, la retraite, ça a été la liberté. Mmh. Ce qu'elle n'est pas pour tout le monde.
Non, c'est important de le dire.
Pas l'oublier.
Mmh. Hein. Et Rosemary Lagrave, elle dit aussi que la vieillesse des femmes, c'est un horizon féministe qui n'a pas encore été exploré, que c'est tout un champ de la pensée féministe qui reste à défricher.
Oui, elle a entièrement raison, en dépit des travaux de nos grandes ancêtres. Il ne faut pas oublier que Simone de Beauvoir
bien sûr.
A écrit un livre qui s'appelle La vieillesse, où elle part de la vieillesse de sa mère, qu'elle a vécue pas tellement bien d'ailleurs. Elle a écrit là-dessus en réfléchissant beaucoup à cet égard. Et, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine, en effet.
Mmh. Si je vous dis la poudre, ça vous fait penser à quoi, Michel Perrault ?
Ça me fait penser à la poudre de riz. Hein, la poudre de riz, c'était ce que on se mettait. Maintenant, c'est un petit peu différent. Hein, c'est blush davantage, mais c'était avec des houppettes, hein, avec des boîtes où il y avait beaucoup de poudre de riz. Et alors, on appuyait la houppette sur la poudre de riz, puis on s'en mettait sur le visage pour ne pas luire excessivement. Donc, c'est à ça que ça me fait penser d'abord. Maintenant, il y a d'autres sens. Il y a la poudre d'escampette. Alors, ce qu'on appelle la poudre d'escampette, c'est se tirer, s'en aller. Et pour moi, ça fait sens, parce que je pense que dire à un moment donné « je m'en vais hein, », comme l'ont fait certaines féministes à certains moments dans l'histoire du féminisme, dire « j'en ai assez de ça et je prends ma liberté, je prends la poudre d'escampette ben », voilà encore un sens extrêmement joyeux de la poudre. Mais moi, j'ai envie de vous demander à vous, pourquoi vous avez appelé votre blog La Poudre ? Pourquoi vous l'avez appelé comme ça ?
Ben justement, parce qu'il y avait beaucoup de sens possibles qui allaient de la poudre cosmétique à la poudre à canon, en passant par la traînée de poudre, la poudre d'escampette, etc. Et par ce titre, je voulais justement renvoyer à la diversité des femmes et montrer qu'il y avait autant de femmes qui avaient de poudre possible.
Pluralité des poudres, pluralité des femmes.
C'est ça, exactement. Voilà. Merci infiniment Michel Perrault, c'était un honneur de vous avoir à mon micro.
Et c'est moi qui vous remercie et qui vous souhaite beaucoup de poudre. Voilà.
Merci.
Et sur le long chemin que vous avez à accomplir.
Merci infiniment. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Merci à Michel Perrault d'être venu faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, Thomas Torres. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.